Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris. Vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Petite consultation entre amis. L'émission de santé totalement décomplexée. Le samedi à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons cette semaine l'actualité en commençant par le déodorant en pastille. Et c'est l'astuce santé bonheur du docteur Guillaume. Les infos qu'il faut, c'est avec le docteur Marion. L'expression rigolote de la semaine, sang froid. Gardez son sang froid et docteur Adrien nous présentera son expression rigolote. Exposome, c'est le mot du médecin, docteur Marion. Et des conseils pour ne plus tomber en se mouchant. Docteur Léo, c'est original, mais en tout cas, c'est les brèves de forum internet. Et on se quittera évidemment avec les brèves également de salles d'attente. Allez, à vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec cette émission une belle brochette de spécialistes. Docteur Léo, notre expert santé numérique.
Ben oui, bonjour.
Bonjour, tout va bien.
Tout va bien.
Tous les voyants sont au vert.
Tout est parfait, à part sur nos forums.
À part sur nos forums, on en parlera en fin d'émission.
On en parlera, ouais.
Également. Et on a réussi, petite consultation entre amis, à débaucher le docteur Guillaume de la matinale.
Oui, bonsoir.
Bien joué.
Merci, je sais, vous m'avez fait une offre plus intéressante.
Eh oui.
Du coup, j'étais obligé de venir. Hein.
Exactement, vous connaissez la voix du docteur Guillaume qui officie sur la matinale du soir.
De
19h, n'est-ce pas ? Ouais. Le mercredi ?
Le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, je suis partout, tout le temps.
Tout le temps et dorénavant, de temps en temps, dans petite consultation entre amis. Et une question qu'on se pose, docteur Marion, comment allez-vous ?
Ça va comme on peut.
C'est un petit ça va, j'ai l'impression, cette semaine.
Un petit ça va.
C'est un petit ça va. Un petit ça va.
Un petit ça va. Mais bon. Je suis pas bien.
Voilà, en tout cas, on s'attache pas au docteur Marion. On espère la retrouver la semaine prochaine, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et en attendant de prédire l'avenir, on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'est la grande info de la semaine. Faut-il arrêter de manger de la viande ?
Elle n'est pas si simple cette question, docteur Marion, avec les dernières déclarations de l'OMS. N'en déplaise aux bouchers et charcutiers, pour vivre en bonne santé, mieux vaut limiter sa consommation de viande rouge. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'Organisation Mondiale de la Santé, avec une alerte sur le caractère cancérogène d'un excès de steak ou de saucisson dans les assiettes.
J'ai quelque chose à vous dire. J'aime la viande.
Oh, la viande ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ?
Je vous laisse.
N'ayez plus peur de dire « j'aime la viande ».
Faut-il dorénavant avoir peur de dire, comme le jeune et faible d'une pub que la morale nous oblige à ne pas citer, « j'aime la viande ». Alors sur le banc des accusés, on retrouve le porc, les viandes rouges, comme le bœuf, le veau, l'agneau, le mouton, la chèvre, les hot-dogs, le jambon, les saucisses, et j'en passe, et même le cheval.
Le cheval, c'est trop génial !
Alors manger de la viande, ça devient un peu moins génial à en croire l'OMS. Parmi les cancers les plus fréquemment associés à la viande rouge figurent le cancer colorectal et dans une moindre mesure les cancers de la prostate et du pancréas selon les auteurs de l'étude. Alors, relativisons tout de même, au jeu des comparaisons, la viande arrive loin derrière d'autres facteurs responsables de cancer, comme la pollution atmosphérique, l'alcool ou le tabac. En termes de chiffres, par exemple, la viande rouge serait responsable de 34 000 décès à la suite d'un cancer par an dans le monde, c'est-à-dire sur 7 milliards de personnes, faut-il le rappeler. Si on compare avec le tabac c'est 1 million de décès par cancer par an, l'alcool 60 000 et la pollution atmosphérique 200 000. Bref, on ne sait pas encore bien comment la viande rouge et la viande transformée augmenteraient le risque de cancer, mais les coupables seraient sans doute des composés chimiques qui se formeraient pendant la transformation des viandes.
Alors, faut-il devenir végétarien, Loïc ?
Alors non, clairement, les auteurs de l'évaluation ne recommandent pas pour autant une alimentation végétarienne. Ils le disent clairement, les régimes végétariens et les régimes carnés ont des avantages et des inconvénients différents pour la santé. La viande, rappelons-le, fournit des protéines, du fer, du zinc et des vitamines B. Et on a envie de vous dire, la viande, c'est un peu comme tous les aliments, à consommer avec une certaine modération.
La deuxième info de la semaine, la clope du matin serait un peu la clope de la mort.
Effectivement, il n'est pas bon être matinal en matière de tabagisme.
Le soleil vient de se lever, un copain est venu partager l'ami Ricoré.
À peine vous entendez la sonnerie du réveil que vous sortez du lit et vous ouvrez votre table de nuit pour sortir votre paquet de cigarettes. Alors la première du matin vous rassure, vous fait démarrer la journée du bon pied. Le bémol c'est que ce réflexe matinal peut vous coûter cher. Plus vous fumez tôt votre cigarette après le réveil, plus vous courez un risque de développer un cancer du poumon. Cette nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Journal of National Cancer Institute confirme un élément peu connu des fumeurs, le délai qui sépare le réveil de la première cigarette est plus important que le nombre de cigarettes fumées pour déterminer le risque de cancer du poumon. Dit autrement, les fumeurs, quelle que soit leur consommation, qui ont l'habitude de fumer leur première cigarette dans les 5 minutes après leur réveil, sont plus exposés au cancer du poumon que les autres. Ces résultats, ils sont issus de l'analyse des habitudes tabagiques de 3249 fumeurs et ça fait effectivement réfléchir. Ils suggèrent que le nombre de cigarettes importerait moins que l'heure à laquelle on commence à fumer dans la journée. En gros, plus on fume peu de temps après le réveil, plus le sang comporterait de la cotinine, qui est un dérivé de la nicotine, qui est produit par l'organisme et qui aggraverait le risque de cancer du poumon.
Maman, je voudrais des gauloises sans filtre.
Bref, on le rappelle, le mieux c'est de ne pas fumer du tout. Et si malheureusement vous avez pris cette mauvaise habitude, attendez au moins une heure après votre réveil pour vous griller une première cigarette.
Votre corps saura vous dire merci.
Et donc, docteur Guillaume, vous êtes allé chercher sur les forums pour nous parler du déodorant en pastille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette révolution
c'est ça, donc,
en termes d'odeur?
Docteur Loïc, que diriez-vous de joindre l'utile à l'agréable? Je vous rassure, hein, ce n'est pas une proposition indécente, parce que je sais que vous êtes déjà pris, mais une innovation récente, le déodorant sous forme de bonbons. Donc, plutôt que de s'induire les aisselles de déo le matin avant d'enfiler son pull, avec le risque de la fameuse tache jaune, blanche, enfin...
C'est pas très joli, c'est pas très glamour.
Voilà, et ben il est désormais possible de se prémunir contre les mauvaises odeurs en avalant une simple pastille. Et oui, aussi magique soit-il, une trouvaille que l'on doit à deux sociétés. Une américaine toujours, parce que les Américains sont partout, Beneo, et bulgare. Pourquoi pas, pour une fois, les Bulgares, ils sont sur le coup.
Sentons le bulgare. Sent le bulgare. Quelqu'un a-t-il utilisé des pastilles dans le studio?
L'entreprise s'appelle Alpi, donc ils ont un peu buggé sur le nom. Mais en fait, ils ont développé et commercialisé donc, les bonbons Deo Perfume Candy. Vous avez vu mon accent anglais, pas
ouais,
mal.
C'est quand même meilleur
que celui de Dr. Loïc.
C'est moche.
Alors, une fois avalé, le bonbon, je vous rassure, diffuse un parfum de rose qui s'exhale par les pores de la peau. C'est magique. Une seule dose suffira à parfumer une personne adulte durant environ 6 heures. Donc c'est plutôt pas mal quand même.
Pas mal.
6 heures, hop, une petite pastille et c'est parti. Alors son principe de fonctionnement repose en fait sur les composés que le corps ne parvient pas à décomposer, relate l'Express, et qui sont excrétés par la peau, un peu comme le sont ceux de l'ail. Bon, c'est moins glamour, mais c'est...
Alors, quand vous y connaissez, tu sens fort, tu sens l'ail. Ah oui, mais c'est mon nouveau déo en pastille
voilà,
à l'ail.
Alors, le composé actif dans le bonbon est le géraniol, en fait, qu'on le retrouve dans les roses, la lavande et la vanille. Donc, selon les industriels, donc les deux fameuses entreprises, il s'agit d'un procédé totalement inoffensif. Ne vous inquiétez.
D'accord, on n'a pas des géraniums qui vont nous pousser sous les aisselles, on ne sait pas pour l'instant.
On pourrait avoir, on ne sait jamais... Bah, ça m'étonnerait même pas qu'on retrouve une vidéo sur YouTube avec quelqu'un qui poussent. Bon, on sait jamais. Alors, aux États-Unis, les bonbons ont fait un tabac, bah, c'est normal. Et depuis qu'ils ont été proposés en ligne au mois d'août, donc ça fait un petit moment, 2 ou 3 mois, et ce, malgré leur prix, parce que 10$ le paquet, ça fait cher la pastille quand même.
Ouais, c'est pas donné quand même. Hein.
10$ le petit paquet de pastilles. Bon.
Après, c'est peut-être agréable pour les autres quand même. Hein.
C'est agréable pour les autres, mais c'est un investissement sur le long terme, quoi. Il faut se dire ça. Il est prévu de les distribuer prochainement dans les commerces en détail. On les trouve déjà en Allemagne, en Espagne, en Chine, en Corée et en Arménie. Je n'ai pas compris la suite logique de ces pays. Arménie, la fin, je n'ai pas compris. Et bientôt en France, on l'espère, parce qu'on ne l'a toujours pas. Et je veux acheter mon paquet à 10$ de bons. Comme ça, quand je le proposerai quand même.
Exactement. Mais je pense qu'on pourrait même mettre une corbeille dans ce studio. Les auditeurs qui n'ont pas l'odeur.
Oui, mais ça sent la mort. On va pas se mentir. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que des gens ont fait une soirée dans le studio.
Quoi de neuf, docteur? Justement, quoi de neuf, docteur Marion? Et vous nous parlez eh bien, d'une journée, de la troisième journée scientifique de l'assurance maladie.
Oui, tout à fait. Cette semaine, effectivement, l'information à retenir, c'est la journée du 15 décembre qui sera dédiée effectivement cette année sur la thématique du coup inégalité sociale de santé, de points agir au quotidien dans les systèmes de santé.
Ça donne envie en tout cas, docteur Marion.
Voilà. Et donc, en fait, c'est une journée qui est organisée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et du conseil scientifique. Ça se déroulera donc cette journée le 15 et ce sera à la Cité internationale universitaire de Paris. Et donc, ça aura lieu de 9h à 17h. Mais je vais vous en dire plus sur le contenu.
Ah bah justement, allons-y, le contenu, le programme.
Voilà, alors le programme. Donc d'abord, elle s'adresse en fait cette journée aux chercheurs, aux professionnels de santé, aux décideurs plus globalement et à tous les acteurs qui peuvent être intéressés à un moment ou un autre par cette analyse du système de santé. Voilà. Donc les inégalités sociales et territoriales de santé sont importantes aujourd'hui en France. Elles naissent et se renforcent en dehors du système de santé. Pour autant, il est permis de s'interroger sur le rôle de ce système et qui par son organisation et ses actions peut contribuer à les réduire ou au contraire à les aggraver.
Donc là, pendant cette journée, on présente des travaux, des recherches,
c'est
des expériences de terrain.
Tout à fait, exactement. Il y aura beaucoup de présentations, mais aussi des tables rondes d'échange. Au niveau du programme, en fait, donc il y aura une introduction qui sera faite par le professeur Bertrand Mila.
Qu'on salue.
Qu'on salue, qui est président en fait du conseil scientifique. Et puis après, les thématiques qui seront abordées, alors dans leur ensemble, il y aura trois grosses sessions importantes. Une première sur les soins primaires, un levier de réduction des inégalités sociales de santé. On s'interroge. Le territoire comme mode d'action. Et l'accès aux soins, accès aux soins, aux droits
et aux droits. Très bien, on retrouve en tout cas plus d'infos sur...
Sur le site donc, de l'assurance maladie, vous retrouvez toutes les informations et les inscriptions, puisqu'il faut être inscrit pour se présenter à cette journée et pouvoir entrer dans l'enceinte de la maison des universités.
Exactement, CTU le 15 décembre 2015 à Paris. Merci docteur Marion. Come close to me. I will be true, I wouldn't stand losing you. Only you can satisfy me, you know how to save me. Be faithful. My mouth, caress my face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your love. Show me loyalty. Be faithful.
Show me loyalty.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris 93.9, c'était Faithful de IBI et on retrouve tout de suite l'expression rigolote de la semaine.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors donc l'expression de la semaine est garder son sang-froid, docteur Adrien.
Tout à fait, docteur Loïc.
Alors ça veut dire quoi concrètement ?
Alors bah, garder son sang-froid, ça veut dire conserver la maîtrise de soi-même, hein, tout simplement. Je pense que les gens sont relativement
courants. Ça, on l'avait un peu deviné, on disait. Voilà. Mais vous gardez votre sang-froid, oui, oui, on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais alors par contre, ce qu'on ne sait pas, ce sont les origines. Alors d'où ça vient ?
Alors d'où ça vient ? Donc garder son sang-froid, en fait, au départ, ça date du XIVe siècle. Et à l'époque, c'est ce qu'on appelait une locution adverbiale. On disait de froissant, et ça voulait dire de propos délibérés.
Donc de froid sang.
De froid sang, voilà.
On inverse les deux mots.
Sang froid de froid sang. Ah,
pas mal.
Donc voilà, la différence, hein, c'est que sang froid, c'est une locution adverbiale, c'est-à-dire que le froid se rapporte à sang, alors que le sang froid en lui-même est un nom. Voilà. Pour la petite anecdote.
Alors retournons au XIVe siècle.
Imaginez-vous le XIVe siècle, dans cet univers médiéval sans pitié et sans merci, on avait sans doute le coup d'épée facile. Aussi, le chevalier Gontran, l'appellerons-nous, victime d'un affront, n'en restera pas là. Il demande réparation à l'auteur de des inepties proférées à son encontre. Bon, voilà, ce chevalier-là, il est plutôt sympa, hein. Du coup, quand il s'aperçoit que le zig en question n'est autre que le chevalier Gédéon, un vieux déchu qui avait pris pour habitude de reconnecter avec sa grandeur passée à l'aide d'un hydromel pour le moins frelaté, le type était pas mal connu à l'époque pour sa mauvaise habitude de raconter des histoires. Sauf que là, pas de bol, le chevalier Gontran, faut pas le chercher. Ainsi, quand celui-ci rencontre Gédéon, il lui dit ceci. Tes propos n'étaient pas tenus de froissant, mais je m'en vais t'aussir sur le champ, vilain imposteur. Que l'on pourrait traduire aujourd'hui pour les jeunes par t'étais foncedé, mais je vais te fumer direct baltringue.
Pas mal, j'aime bien la traduction parce que ça me parle un peu mieux.
Voilà, mais oui, c'est pour ça que je l'avais fait, figurez-vous. Mais je m'égare. Donc 300 ans plus tard, on est donc au. Quel siècle ?
Je dirais 17e.
17e, bien joué. Vous êtes bon en maths. Donc le sens n'a pas trop bougé au XVIIe siècle, mais les mots, oui, comme je vous le disais tout à l'heure. On a donc promu la locution au rang de nom et on a le sang-froid, avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans les images liées au comportement humain, la température du sang a une certaine importance hein, quand même, puisque ne dit-on pas de quelqu'un de très impatient ou qu'il est prêt à éclater, qu'il a le sang qui bout. Il est donc normal qu'à l'autre extrémité de l'échelle des températures, celui dont le sang est très loin de bouillir reste zen et imperturbable. Pour finir, docteur Loïc, sachez que cette expression se traduit littéralement dans beaucoup de langues. Certains, cependant, ont su y ajouter une petite touche de fantaisie. Aussi, un anglophone vous dira dans une situation de crise qu'il reste, ou pas, aussi frais qu'un concombre, docteur Loïc, ce qui ne manque pas de panache, vous en conviendrez.
Exactement, et on reste frais, même comme un concombre, docteur Adrien.
Non, on est toujours frais comme des concombres.
Voilà, il faut bien dire les deux syllabes. En vous écoutant, merci docteur Adrien. Et on danse déjà avec vous, docteur Marion, et vous allez nous parler du mot du médecin. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de exposome. Alors en fait, c'est une expo à nous proposer, je comprends pas bien.
Mais non, Loïc, j'en peux plus de vous. Vous perdez les chèvres, vous perdez complètement les chèvres, vous marchez dessus, on ne sait plus, on ne sait pas.
Donc vous allez en fait nous parler d'une exposome, c'est ça?
Oui Loïc, vous êtes bien tombé dans le panneau, on va pas parler d'une expo qui se passe dans la Somme, mais bien de l'exposome. L'exposome en un seul mot et avec un seul M.
Bon alors, concrètement, qu'est-ce que c'est l'exposome ?
Alors c'est un mot un peu barbare pour parler d'un nouveau concept, un concept qui a été introduit dans la loi de santé, la nouvelle loi, le projet de loi de santé qui est actuellement au Sénat. Il ouvre en fait des perspectives d'une meilleure prise en compte des risques environnementaux pour la santé.
Jamais entendu parler pour ma part, docteur Marion, je suis désolée.
Oui, bah, je ne suis pas tellement étonnée, docteur Loïc, trop occupée à débattre sur le tiers payant, les salles de shoot, en fumant des cigarettes sur des paquets neutres.
Je vous en prie, docteur Marion, ne nous égarons pas.
Bref, comme pour tout le monde, le concept d'exposome est passé inaperçu à vos yeux. Hein. Comme le souligne d'ailleurs François Veillerette, le porte-parole de l'association Génération Future, en fait, l'exposum, c'est une petite révolution, voilà, très discrète.
Alors,
parce
très
qu'on l'appelle
silencieuse. Hein.
Très
toute
silencieuse.
Petite révolution.
Tout à fait, révolution discrète, mais silencieuse. C'est le titre d'un nouveau
Alors,
film.
Le concept de l'exposum, c'est quoi? C'est quoi l'exposum?
Donc l'exposum...
Vous n'avez toujours pas répondu à ma question.
Est tout droit importé de la recherche en fait en toxicologie. Ça désigne l'ensemble des expositions sur la vie entière, y compris fœtale, et les facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine. On n'a rien compris.
Non, mais bon.
Je vous vois Béa. Je vous vois tous Béa.
Bon, autrement dit,
c'est sur cette base en fait que se fondera désormais l'identification des risques sanitaires, ainsi que les actions de prévention, d'information sur les risques de la santé liés à ces facteurs d'environnement, parmi lesquels on peut citer par exemple les particules fines, les produits phytosanitaires, les perturbateurs endocriniens.
Donc voilà, c'est un peu c'est les facteurs d'exposition auxquels on est exposé, mais c'est pas un peu fumeux ce concept, docteur Marion ?
Je sais pas, je vous permets pas, non ? Je crois pas, hein ? Mais bon, en fait, si, parce que Génération Future modère quand même ses propos, enfin son enthousiasme même, parce qu'effectivement, le docteur Veillerette dit c'est une révolution scientifique et sociétale, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, et ça, je crois bien, quoi que vous êtes breton.
Et en facteur, ça dépend, parce qu'avec, et puis la pluie est un facteur environnemental, finalement.
On va peut-être pas faire un débat philosophique là-dessus aujourd'hui, en tout cas, c'est... Le docteur Veillerette dit que ce n'est pas un mot dans une loi qui va changer les choses. Effectivement, l'exposum se fournit d'un appui à des applications concrètes qui prendront beaucoup de temps à se mettre en place.
Bon, voilà. Bah, on suivra en tout cas l'évolution de l'exposum au fur et à mesure des années, même des siècles, docteur Marion.
Si vous... Je pense que ça traversera les siècles.
Exactement, si vous êtes toujours là.
Oh, n'ayez pas peur, monsieur. On va soigner votre bobo.
Alors, docteur Léo, vous êtes, comme toutes les semaines, allé fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine.
Effectivement, et pour tout vous dire, cette chronique a également été l'occasion pour moi et pour la première fois d'aller sur un forum santé. Alors évidemment, quand on cherche des perles sur un forum, on va presque instinctivement sur l'onglet...
Sexualité, j'ai envie de dire, ça c'est un peu le grand classique.
Évidemment, donc c'est là où on s'imagine qu'on trouvera le plus de matière, que sera le plus cocasse. Eh bien c'est vrai, c'est le délire le plus total, c'est la folie furieuse, il n'y a absolument aucun tabou, mais par contre beaucoup d'hommes qui se posent des questions sur leur douleur de testicules. Ceci étant dit, on se rend rapidement compte qu'on peut sortir de l'onglet sexualité pour continuer à trouver du grand n'importe quoi. Des gens qui mangent des kiwis et qui se demandent pourquoi cela a le goût de cerise, d'autres qui cherchent à savoir si l'alarme d'un portique de sécurité peut créer des acouphènes.
Mais alors revenons à cette semaine, la question qui va nous intéresser, un peu de suspense.
Un peu de suspense.
Elle est posée par Shoy, qui nous dit...
Alors effectivement, Shoy, il nous dit « Bonjour à tous, comme chaque année, j'ai chopé un bon rhume, mais à chaque fois que je me mouche, ça claque dans les oreilles et je vacille jusqu'à me retrouver au sol.
» Donc Shoy, il se mouche et il tombe.
Il tombe, c'est le coma à chaque fois.
C'est chaud.
Ce qui est assez problématique quand on a un rhume. Donc, il nous pose la question, cela évoque-t-il quelque chose à quelqu'un? Eh bien, alors, Shoy, il a probablement quand même un certain sens
de l'exagération.
Il a donc un certain sens du spectacle. Et peut-être, plutôt que de s'effondrer à chaque fois qu'il se mouche, il est simplement pris d'un petit vertige. Mais en dehors de ce souci d'affabulation, il y a deux problèmes. Alors déjà, il y a le rhume et sa conséquence. Donc ici, le fait de se moucher comme une brute. Et deuxièmement, il y a le vertige. Alors, petite précision, les fosses nasales sont bien liées entre guillemets à l'oreille via ce qu'on appelle la trompe d'Eustache, dont l'une des fonctions est d'empêcher que les sécrétions nasales n'arrivent pas dans l'oreille. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est même du beau boulot. Deuxième chose, le centre de l'équilibre du corps humain se trouve dans l'oreille interne. Donc, le lien finalement nez-oreille-chute que nous présente Shoy n'est pas si absurde. Ceci étant dit, le vrai souci ici est vraisemblablement dans la façon de se moucher. Eh bien, Shoy, qui prétend avoir d'ailleurs 40 ans. Exactement. Eh bien, voilà.
Conseil, mais non, mais ça, c'est important. On se mouche pas n'importe comment.
Voilà.
Léo.
Non, mais exactement. C'est vrai. Non, c'est ça. Et donc, Shoy nous montre, et Marion également, docteur Marion nous montre aussi que la question mérite d'être posée. Donc, il faut mieux se moucher lentement et sûrement, une narine à la fois, sans bouger, ce qui évite au passage de frapper avec sa tête un objet ou un meuble et de vaciller jusqu'à se retrouver au sol. Et on peut donc également, dans des cas comme celui de Shoy, qui semble avoir quelques problèmes à se moucher, également se laver régulièrement le nez avec de l'eau de mer stérilisée par exemple. Si le vertige ou les chutes continuent malgré tout cela, il faut en revanche vite consulter un spécialiste ORL pour déterminer quelle est la cause des vertiges, probablement plus profonde que le fait de se moucher trop fort quand on a un rhume.
En tout cas, on aura appris à bien se moucher. Merci docteur, merci à Choy.
Merci à qui nous écoute.
À Choy. On est en retard, mais on se fait au moins une ou deux attendus des brefs de salle d'attente. Allez, une étude qui est intéressante. Trop de relations sexuelles.
Non,
ça ne tue pas.
Mais bon pour le cœur.
Alors c'est bon pour le cœur, oui, mais...
Mais,
alors,
mais
c'est
si
pas,
on dit trop sexuel,
mais c'est pas,
y a un côté...
C'est, ouais, trop, il y a un côté, effectivement, c'est pas forcément très bon pour
arrêt
quelque
cardiaque,
chose.
Multiplication des arrêts cardiaques.
Alors pas forcément arrêt cardiaque, mais oui, il y a des études là-dessus, mais c'est pas...
Est-ce que ça grille pas des neurones un peu?
Non, ça grille pas des neurones.
Ça doit griller autre chose.
Ça, c'est si tu tapes la tête dans le mur.
Alors oui, mais
en te mouchant.
Par contre, on est là-dessus, on est effectivement plutôt sur un traumatisme.
Ah oui, c'est ça.
Ça endommagerait...
Ça, oui, on, ça tape la tête.
Pas forcément la tête. Ah. Et je vous aide un peu du coup.
Position
du missionnaire.
Ah oui.
Syndrome du canal carpien.
Oh là, tu nous perds là.
Ouais, je perds les chèvres.
Oh là là.
Trop de relations sexuelles endommagerait les...
Les mouvements.
Les poignets.
Effectivement, des milliers de personnes souffriraient de micro-traumatismes répétés au niveau des poignets en raison d'un trop gros appétit sexuel. C'est le docteur John Senyon qui effectivement a fait cette étude.
Oh là là.
Et voilà, un syndrome de canal carpien pourrait se développer en raison du poids que doivent supporter les poignets lors de la position, par exemple, du missionnaire.
Alors on leur conseille de changer de position.
Bah oui, c'est voilà, facile la solution.
De pas utiliser les mains.
Allez, on va parler de l'amour. Et on va parler des couples. Et plus vous faites, plus les couples sont impliqués dans les tâches ménagères, plus ça dure.
Ils s'engueulent, non ?
Ils ont des relations sexuelles.
Exactement. Et plus
oui,
souvent,
tout est à base de sexe avec le docteur Loïc. Donc
mais non,
ça,
mais
ça, ça,
aujourd'hui,
c'est facile. C'est faux.
Et effectivement, c'est une étude dans le New Jersey aux États-Unis, qui dit que plus deux personnes participent souvent aux tâches ménagères, plus elle ferait souvent l'amour. Donc voilà, un petit coup de serpillière et hop.
On pourrait presque parler d'une astuce santé.
Santé, bonheur, ménage,
etc. On passe la serpillière. Allez, on passe la serpillière sur tous parce que c'est la fin de l'émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, 17h30, 18h. Vous retrouvez plus d'infos sur www.radiocampusparis.org. Vous pouvez podcaster nos émissions sur Petite Consultation entre amis. Après nous à 19h, il y a Tropical Club juste avant l'œil. À l'écoute, un grand merci à notre réalisateur auvergnat qui
merci,
est derrière. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30 samedi, et on vous dit une très bonne semaine. Salut,
bonne semaine.
Ciao.